Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors il lui dit « Mais qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ?» Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez les chemins du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. » Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. On vénère encore aujourd'hui le lieu du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, quand on va au bord du Jourdain, mais aussi sans doute ce lieu où Jean-Baptiste baptisait plus largement. Et c'est à cet endroit que Jésus a souhaité revenir quelques semaines avant sa mort et sa résurrection. Il s'est retiré à Béthanie, là où tout avait commencé finalement, et il avait besoin de silence, de prière et de préparation. Donc ce lieu est un lieu important pour le cœur de Jésus et pour Jean-Baptiste aussi. Et vous avez remarqué comment Jean-Baptiste est vraiment soucieux de ne s'approprier en rien quoi que ce soit qui ne lui soit pas départi par Dieu. Il dit clairement « Je ne suis pas le Christ ». Il dit aussi « Je ne suis pas Élie » puisque il y avait dans l'Ancien Testament cette prophétie que le prophète Élie devait revenir à la fin des temps pour accomplir une mission particulière. Et il dit « Ce n'est pas moi ». Il dit « Je ne suis pas non plus le grand prophète, celui qui avait été annoncé au livre du Deutéronome et que Moïse avait annoncé comme étant celui qui viendrait et dont la parole serait forte et qu'on devrait accueillir vraiment comme parole de Dieu. Ce n'est pas moi le prophète annoncé. » Donc c'est décourageant pour ceux qui viennent poser des questions. Et il se définit simplement comme une voix qui annonce, qui prépare. Voilà. Et alors à la question « Pourquoi baptises-tu ?», il va dire aussi « Mais de toute façon, moi, ce que je fais, ce n'est pas grand-chose. Je baptise dans l'eau, mais derrière moi vient celui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Du moins, ce n'est pas ici qu'il le dit. Il le dit ailleurs, mais voilà. « Celui que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. » Et je ne suis vraiment pas digne de lui prêcher la pénitence de délier la courroie de sa sandale. Vous voyez cette grande humilité de Jean-Baptiste, au fond, qui ne s'approprie en rien quelque chose qui ne soit pas de son ressort. Alors, petite réflexion, l'humilité, ça consiste pas forcément à s'effacer comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement humbles, on a l'impression qu'ils voudraient gommer leur présence, qu'ils voudraient être transparents, qu'ils voudraient ne pas être là. Et c'est une sorte de pathologie, ça, qui est plutôt psychologique. Hein. Mais c'est pas ça l'humilité. L'humilité ne consiste pas à s'effacer comme ça, comme si vraiment ça nous pesait d'être ce que nous sommes. L'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Donc, il faut savoir reconnaître en vérité tout ce que Dieu nous a donné, qui est Dieu, qui nous sommes, le reconnaître en vérité et être à l'aise dans cette vérité. L'humilité, c'est la vérité. Donc, il n'y a pas cette caractéristique de fausse situation, mais on n'hésite pas à, effectivement, dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu a donné, à condition de rendre gloire à Dieu, à condition de lui rendre la gloire et de reconnaître que tout vient de lui. Et voyez, nous trouvons cette perspective aussi dans la première lecture et dans la seconde lecture. Dans la première lecture, on entend le prophète Isaïe qui parle au nom du Messie à venir. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles. » Et puis, le prophète Isaïe, plus loin, parce qu'on a fait une coupure dans la lecture, dit ceci, « Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. » On aurait un peu tendance à penser, mais pour qui se prend-il ? Pas de fausse humilité. Il voit par espérance ce que Dieu donne, ce que Dieu accomplit. Et il dit, je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Voilà, la joie chrétienne, c'est la joie de la vérité de ce que Dieu a fait, que nous nous approprions par l'espérance. La joie chrétienne, c'est la joie de l'espérance. La joie de la mise en œuvre de l'espérance qui s'approprie les biens promis par Dieu. La foi est une manière de posséder déjà les choses qui sont promises par Dieu et que nous ne voyons pas, mais nous les considérons déjà comme nôtres et nous les accueillons vraiment avec joie. Oui, mais vous direz, on va se faire sûrement des scénarios intérieurs avec ça, on va partir un peu dans les décors en s'imaginant que, voilà, des tas de choses et on va vivre à côté de nos pompes parce qu'on ne sera plus dans la réalité, le concret. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de pathologie de l'espérance qui consiste à, au fond, être tellement situé dans les biens promis qu'on en délaisse, entre guillemets, le devoir d'État. Si notre foi, notre espérance et notre charité sont bien calées, nous devons vraiment vivre à fond notre devoir d'État et à fond et à l'aise, en paix et en joie. La joie, c'est d'accueillir tous ces biens que Dieu nous promet. Et ce que le prophète dit à propos de lui-même, nous pouvons le dire à propos de nous aussi, par le baptême. Et par la résurrection à venir, le Seigneur nous revêtira du manteau de la justice, du diadème, du vêtement du salut. Alors comme la terre fait éclore son germe, le jardin germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange. C'est un processus progressif, mais par la foi, nous nous approprions déjà ce que Dieu va nous donner au terme. On peut peut-être alors mieux comprendre les paroles de Paul qui nous semblent un peu étonnantes, un peu brutales, un peu brutes de décoffrage quand il dit « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. On a l'impression qu'il fait dans un absolu un peu déraisonnable. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il y a des circonstances où on n'a pas envie de rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas pousser. Mais si saint Paul exhorte les Thessaloniciens, c'est la première communauté à qui il est écrit vers l'an 51, première puis la deuxième lettre aux Thessaloniciens, s'il leur dit cela, c'est parce que vraiment il les a instruits déjà sur les biens du salut. Et c'est en raison de cela qu'il dit, parce que vous savez, vous connaissez quelle est votre destinée et quelles sont les promesses de Dieu pour nous et pour vous, soyez toujours dans la joie, mais aussi priez sans relâche pour les recevoir, pour en vivre dès maintenant, et rendez grâce en toutes circonstances. Donc pas uniquement pour le vécu d'aujourd'hui qui peut être difficile, mais pour le vécu à venir. Et pourtant le vécu d'aujourd'hui est donné par Dieu aussi. Il ne faudrait pas penser que Dieu ne donne que la partie joyeuse de notre vie et que la partie malheureuse, difficile ou éprouvante soit en dehors des perspectives de Dieu. Non, pas du tout. Tout nous est donné par Dieu pour que nous en fassions notre miel, et à travers les épreuves et les souffrances, le Seigneur les permet pour que nous puissions grandir. Elles contiennent un fort potentiel de croissance spirituelle si nous savons les vivre en union avec lui. Alors ainsi, en toutes circonstances, heureuses ou malheureuses, toujours, hier, aujourd'hui, demain, constamment, nous pouvons, sans relâche, constamment, nous pouvons être dans la joie, prier. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent de prier en disant « Non, Dieu ne m'exauce pas, manque de patience. » Puis Dieu, « Non, Dieu ne m'aime pas, il ne répond jamais à mes prières. » Priez sans relâche. Et rendez grâce en toutes circonstances. Non, parce que ça, c'est vraiment pénible. Je ne vois pas pourquoi je rendrai grâce à Dieu. Si. Et Paul ajoute, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Pour une fois qu'on nous dit quelle est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous, dans le Christ Jésus. Nous pourrons relire ces deux petits versets de 1 Thessaloniciens 5, 16 et 17. Soyez toujours dans la joie, et c'est pour ça qu'on la lit le troisième dimanche de l'Avent, qui s'appelle le dimanche de la joie, parce que les lectures sont plus orientées dans cette direction. Alors il y a des prêtres qui se croient obligés de mettre des ornements roses pour marquer cette perspective de joie. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.